Vous étiez en compagnie de Radio France Internationale et c'est maintenant l'heure du LEM sur Radio Évasion.
Sur le 100.4, le LEM, l'émission du midi, le magazine de Radio Évasion de midi à 13h et en direct.
Ce midi, le LEM Culture reprend ses droits. C'est la semaine de la presse dans les écoles en ce moment et comme vous le savez, à Radio Évasion, c'est à peu près toute l'année que des jeunes viennent prendre le micro sur nos antennes. Pour ne pas déroger à la règle, ce midi, nous donnons la parole aux élèves de 3e du Collège et Lycée des Métiers du Bâtiment à Plébin. Les élèves nous proposent une rencontre avec Paul Wameau. Paul Wameau est un artiste venant de Nouvelle-Calédonie, spécialisé dans le slam installé en France métropolitaine depuis quelques années. Cette interview va vous proposer de découvrir un petit peu plus la poésie, le slam et l'univers de cet artiste kanak. Et en deuxième partie d'émission, Joanne nous proposera la découverte des Sunvisors. Ceux-ci étaient en concert au Novomax la semaine dernière. À Quimper, ça devrait plaire aux amoureux de reggae, soul et électro, une belle fusion donc au programme. Mais on rejoint tout d'abord le Collège et Lycée des Métiers du Bâtiment à Plébin. Ils étaient présents ce jeudi dans les studios pour discuter avec Paul Wameau. Découverte de l'artiste en musique tout d'abord et retour dans les studios pour découvrir cet artiste originaire de Nouvelle-Calédonie.
L'émission du midi, tous les jours en direct, est rediffusée à 18h. L'émission du midi, avec de vrais morceaux de Finistère dedans.
Noir, 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 je suis noir qui tape à l'œil. Noir comme le charbon, beau comme le soleil. Noir, 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 je suis noir qui tape à l'œil. Noir comme le charbon, beau comme le soleil. Noir, et même plus que noir, pas juste noir, ni seulement noir. On m'a exposé comme une bête. Parce que j'étais noir, expulsé comme un rien. Parce que j'étais noir, on m'a pris pour le diable. Car je n'étais pas blanc. Noir, 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 je suis noir qui tape à l'œil. Noir comme le charbon, beau comme le soleil. Noir, et même plus que noir, pas juste noir, ni seulement noir. Mais on me nomme souvent, non civilisé souvent, non éduqué souvent. Noir, noir, noir souvent, noir peau noir souvent, noir pour rien. Je suis noir qui tape à l'œil. Noir comme le charbon, beau comme le soleil. Noir, 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 noir. Et même plus que noir, pas juste noir, ni seulement noir. Mais on me nomme souvent, non, noir, noir, souvent, noir, 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 souvent, noir, tout noir, souvent, noir, 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 souvent, noir, 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 noir. Et même si tu m'entends et que tu ne veux pas me croire, je suis plus que ma peau et même plus loin que noir. Et si je le veux, je suis soleil et toi tu veux être montagne. Car tout est dans la tête, y a pas de bagne. Je suis noir multicolore, noir feu d'artifice, noir sans limite. Noir, 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 je suis noir qui tape à l'œil. Noir comme le charbon, beau comme le soleil. Et je clame au nom de toutes les couleurs. Et ma rédemption.
Allô, bonjour Paul, c'est Ryan de la 3e prépa po de Plébin.
Oui, ça va?
Oui, très bien, et vous, comment allez-vous?
On va bien, on va bien, on est là.
Ah d'accord, nous aussi
il
on est là.
Il fait un peu froid, il fait un peu froid, il fait un peu très froid. L'hiver est un peu très long, mais on est là.
Ah on est là, c'est la Bretagne.
Ah oui, moi je suis à Paris, c'est un peu pareil, non?
Oh c'est un
sauf
peu pareil.
Qu'il y a plus de monde, qu'il y a plus de pollution et qu'il y a plus de bâtiments.
D'accord. En tout cas, on vous remercie de nous répondre à nos questions.
Avec grand plaisir, d'accord. Avec très grand plaisir. Ben merci à vous de m'interviewer.
Du coup, j'avais une première question.
Oui.
Quel est votre lien avec la Bretagne?
Mon lien avec la Bretagne, en fait, je crois que j'ai dans une autre vie, j'étais breton. Je devais être un goéland. Et puis un goéland qui vient de la Bretagne. Et je pense qu'il y a ça. Puis il y a aussi une résidence d'écriture que j'ai fait il y a 2 ans à Douarnenez. Quand je suis parti de Nouvelle-Calédonie, de mon pays, avec mon épouse, on a été accueillis à Douarnenez pour travailler avec l'association Rhizome. D'accord. Donc on a passé deux mois là-bas, et depuis, ben, on m'a adopté, et j'y reviens souvent.
D'accord.
Merci. Voilà. Et la Bretagne, mais oui, voilà, c'est ça. En tout cas, Douarnenez.
D'accord.
Comment avez-vous commencé le slam et quand ?
Le slam, en fait, j'ai commencé par écrire de la poésie avant de faire du slam. Et j'ai commencé à écrire au lycée. C'est comme ça que j'ai commencé par écrire d'abord avant de faire du slam, à écrire des poèmes, parce que le slam, c'est d'abord écrire des textes. Donc j'ai commencé par écrire des textes, juste à écrire, pas à dire des textes sur scène ou faire de la déclamation, mais juste à écrire. Donc j'ai commencé à écrire au lycée, parce que pour moi, l'écriture, là, j'ai dit toujours que l'écriture, ça m'a sauvé. Écrire des poèmes, ça m'a sauvé la vie, ça m'a sauvé la tête, parce que j'avais des choses que je n'arrivais pas à exprimer, que je n'arrivais pas à faire sortir de ma tête, que je n'arrivais pas à faire sortir de moi. Et comme ça me bouffait la tête, et puis ça me faisait mal à la tête. Et du coup, quand j'ai commencé à écrire des poèmes, j'aimais déjà la poésie à l'école, hein. J'ai eu des bons profs de français qui m'ont fait aimer la poésie, et j'ai commencé à fréquenter aussi des jeunes qui étaient dans le rap au lycée, et eux au lycée ils se mettaient à écrire pendant les heures de récréation ou les heures de pause. Ils se faisaient des jeux d'écriture comme ça, ils faisaient des petits couplets entre eux, tout ça, ils jouaient avec les mots. Et quand j'ai commencé à jouer avec eux sur les mots, sur l'écriture, sur des textes, là j'ai vu que les choses que j'arrivais pas à faire sortir, ben j'arrivais à les exprimer sur le papier, avec le stylo, avec les mots, avec la poésie. Et depuis ça m'a fait du bien, quoi. Donc c'est pour ça que je dis que l'écriture, ça m'a sauvé et ça m'a guéri. Et ensuite le slam, ça arrivait bien après. Ça c'était au lycée, en terminale. Mais le slam, là, dire des textes sur scène, c'est arrivé bien après. Et je suis tombé aussi dedans par accident. Un jour, un gars a lu un de mes textes, a dit, ben, tu veux pas dire ces textes sur scène. Et puis, moi, j'étais très, très timide à l'époque. Hein. À l'époque, j'étais timide, mais timide de la mort qui tue. Et là, quand même, je me suis dit, peut-être que ça va être une étape pour moi de dépasser ma timidité et de pouvoir dire mes textes sur une scène devant des gens qui écoutent et tout ça, c'est pas facile. Et je suis, avant d'aller sur scène, il y a un film qui est passé à la télé et qui s'appelait Slam. Et là, j'étais en train de regarder le film et tout. Et en fait, le film, c'était un gars qui disait des textes. Il disait des textes tout le long. Il allait en prison, il sortait de sa prison. Ça s'appelle Saul Williams. Si vous avez l'occasion de trouver ce film sur Internet, ça s'appelle Slam. Et quand j'ai vu le gars dire ses textes, il les disait avec toute sa voix, tout son corps et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et il criait ses textes.
Ouais,
et du coup, je me suis dit, voilà. Et du coup, je me suis dit, si je vais dire mes textes sur scène, je vais les dire comme lui, là. Et là, je suis monté sur scène et j'ai crié mes textes, j'ai craché sur les gens, j'ai bavé sur les gens. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dire mes textes sur scène. Et après après j'ai continué à faire des scènes et le slam est arrivé comme ça aussi. En tout cas, la lecture sur scène. Après le slam, c'est à part. Soit je vous encourage, vous aussi, à vous exprimer. Moi, j'ai trouvé la poésie, il y a la musique, il y a le sport, il y a l'art. Ça, quand on n'arrive pas à dire les choses, ça, c'est pas bien de les garder dans sa tête. Il faut les sortir, sinon la tête, elle est petite et puis elle finit par exploser. Donc je vous encourage, vous aussi, qui m'écoutez, de vous exprimer.
Vous êtes en résidence à Marseille. Et pourquoi Marseille?
Parce qu'il y a le soleil, parce qu'il y a la mer, et puis parce qu'il y a des jolies filles aussi. Je rigole, pardon, je rigole.
En Bretagne aussi, il y a des jolies filles, il y a du beau temps.
Oui, mais pardon, non, mais je rigole. Je suis allé à Marseille, j'aime bien rigoler, des fois, il faut pas prendre au sérieux ce que je dis. Je fais un peu le clown. c'est bien de faire le clown des fois.
Ouais,
les clowns, c'est
bien.
Sérieux, les clowns. Donc, pour revenir à la question, sérieusement, le Marseille, c'est parce qu'il y avait du travail là-bas pour nous. Les loyers étaient moins chers. On était à Paris avant d'arriver à Marseille. Et à Paris, c'est une vie qui est quand même assez, assez dure quand on n'a pas de sous, on n'a pas d'argent. Et donc là, ici, c'était un peu Babylone, quoi. On n'arrivait plus à commencer à voir un peu, à voir, à tomber un peu malade du cerveau. Mais, et du coup, Marseille, on a dit Marseille parce qu'il y a, ben, parce qu'il y a le temps, bien sûr. Il y a aussi la vie moins chère et le travail. Voilà.
Expliquez-nous la différence entre le rap et le slam.
Le rap, c'est de la musique, hein. Le rap, c'est de la musique. Le rap, c'est du texte sur de la musique. Quand tu rap, tu as ce qu'on appelle un beat. Un beat, c'est une musique, un tempo, une musique qui te donne une percussion, qui te donne la pulse du texte, quoi. Tu m'entends là quand tu veux. Ça. Après, tu dis un texte sur ce rythme-là. Tu vois, ça, c'est du rap. Il y a la musique. Alors que le slam, il n'y a pas de musique. Là, quand on dit que Grand Corps Malade a sorti un album de slam, pour moi, c'est faux. Parce que le slam, c'est avant tout une scène ouverte. Le slam, c'est un moment où les gens viennent dire des textes. C'est pas, tu peux pas dire un album de slam. Parce que le slam, en fait, l'histoire du slam, c'est un gars qui a inventé cette pratique dans les années 80. C'est un Américain du nom de Mark Smith, qui est architecte et puis qui écrivait des poèmes. Et un jour, il s'est dit, bon, ben, je vais aller dire mes poèmes dans des soirées poésie, des soirées lecture de poèmes, et, où les gens viennent dire des textes et tout ça. Et dire des poèmes et tout. Et quand il est allé dans sa première soirée poésie, il est tombé sur des gens qui se prenaient pas pour du caca, quoi, hein. Et ils venaient dire des textes, ils venaient montrer qu'ils savaient dire les mots du dictionnaire, et ils jugeaient les autres quand les autres disaient leurs textes. C'était plus de celui qui Il venait plus pour se montrer que pour partager leurs textes. Et donc lui n'était pas venu pour ça. Il n'était pas venu pour faire un concours. Il n'était pas venu pour dire que c'était le meilleur. Il voulait juste partager ses textes. Donc il est sorti de cette soirée. Il est allé dans un bar. Il a dit au barman, bon, je vais dire un texte devant tes clients là. Et tu vas inviter après les clients à monter sur scène et à dire quelque chose. Et celui qui va dire un mot, qui va dire une phrase, il aura droit à un verre gratuit. Et c'est comme ça que c'est parti. Ça a eu du succès. Il a refait sa deuxième soir. Et ce qu'il avait voulu faire montrer à travers ça, le gars, c'est que tout le monde peut s'exprimer. Là, on revient encore à l'expression. Des fois, on va dire la poésie, c'est pour ceux qui écrivent bien le français. Ou la poésie, c'est pour ceux qui connaissent les mots du dictionnaire. Ou la poésie, c'est pour ceux qui habitent les belles maisons. Alors que non, lui, ce qu'il voulait dire, quand il a créé le slam, c'est que tout le monde peut dire des textes, tout le monde peut écrire ses textes avec ses mots, d'où ils viennent, qui qu'ils soient. Et ça a devenu un succès. Il a appelé ça slam. Donc, le slam, en fait, voilà, c'est des gens qui viennent dire leurs textes. Avec des règles, tu as droit entre 3 et 5 minutes de temps de lecture, entre 3 et 5 minutes, pas moins de 3 et pas plus de 5, et tu viens dire des textes. Donc moi j'ai assisté à des soirées slam, mes premières soirées slam ici en France, j'ai vu, mais il y avait de tout, hein. Il y avait, on avait donc la soirée qui commençait, un MC qui prenait le nom de ceux qui venaient des slameurs qui étaient venus pour dire leur texte, genre, et après la soirée commençait, il y avait de tout, il y avait des gens du quartier, il y avait des vieilles dames, il y avait des gens bien habillés, des gens mal habillés, donc c'était très libre, chacun avec son flow, comme on dit, son flow, son rythme et tout ça. Donc c'est vraiment une expression libre où les gens viennent écouter les autres, et s'écouter les uns les autres. Voilà le slam, la différence entre le slam et le rap. Après, maintenant, on dit vite fait quand Grand Corps Malade a sorti son disque, on a tout de suite dit, ah, ça, c'est un disque de slam. Parce que, à la base, Grand Corps Malade, c'est un slammeur. Mais quand tu slams, tu mets pas de musique. Tous tes textes, tu fais a cappella et puis c'est pas, tu fais pas un disque de slam. Parce que le slam, c'est vraiment un moment où les gens, toi, tu peux être slammeur si tu veux. Vous, vous pouvez être slammeur demain. Si vous avez envie de dire un texte, vous vous inscrivez à une soirée slam et vous dites un texte et vous êtes slammeur. Voilà, c'est simple. Il n'y a pas une façon de devenir slammeur ou quoi. C'est à partir du moment où tu viens dire ton texte, t'es slammeur. Et voilà, 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 voilà pour moi ce que c'est le slam. Et donc, quand Grand Corps Malade est sorti ici en France avec un disque, ici on savait pas trop quoi dire. Qu'est-ce que c'est comme disque? C'est un mec qui lit des textes, la musique. Bon, allez, on va dire slam parce qu'il y a du slam. Donc, on a, par fainéantise en France, on dit que c'est du slam, mais c'est, parce qu'on est fatigué de chercher des mots. Mais c'est pas du slam. Enfin, après, c'est moi qui finaille sur la définition. Mais après, en Angleterre et aux États-Unis, eux, ils ont un nom pour ça. Ils ont un nom pour les textes que tu mets en musique. Ils appellent ça du spoken word. C'est ça la vraie définition de si Grand Corps Malade, s'il fallait bien dire ce qu'il fait, c'est du spoken word, c'est pas du slam. Le slam, je répète encore, c'est un moment où les gens viennent dire des textes a cappella. Voilà.
Et est-ce que votre famille vous a encouragé pour votre passion?
Ma famille savait pas que j'écrivais des textes. Ma famille savait pas du tout que j'écrivais des poèmes. Mes copains savaient, quand j'ai commencé à écrire pour faire sortir les cailloux de ma tête, je faisais ça pour moi, je faisais ça en secret. Ah, ok, mais quand j'ai dit à ma famille que j'écrivais des poèmes, là, ils étaient un peu, t'as fumé quoi, là? Qu'est-ce que t'as bu? Ils ont pas compris, quoi. Et les copains aussi, mais ensuite, avec le temps, ils ont pu voir que c'était un médicament pour moi, mais au départ c'était un peu, ils aimaient il est en train de faire le clown et tout ça. Et quand c'est devenu mon métier, j'ai travaillé avant de faire que ça. J'ai été prof de langue kanak. Et à côté de ça, j'étais aussi, j'ai commencé à faire des scènes au pays et tout ça. Je commençais à faire des ateliers. Et là encore, on disait, mais non, mais c'est juste un passe-temps ce qu'il fait là. Ça, c'est pour s'amuser, c'est pas un vrai travail et tout. Alors que ça devenait un vrai travail. J'ai abandonné mon métier de prof pour me consacrer entièrement à ça. Donc on a fait des concerts, on a fait des albums. Mais là encore, ils voyaient les choses, ils m'encourageaient, mais dans leur tête, c'était juste un délire, quoi. C'était juste un mec qui délire, qui fait le rigolo, quoi, qui fait le clown. Et là, quand j'ai pris la décision de venir en France, l'année dernière, il y a 2 ans, je suis revenu en Nouvelle-Calédonie pour présenter mon spectacle. Là, ils ont vu que c'était vraiment un métier. Ils ont vu vraiment que c'était pas juste pour rigoler, que c'était vraiment, c'est un métier, hein, quand on devient artiste, quand on devient intermittent du spectacle. On appelle ça ici en France intermittent du spectacle, quand ça devient un métier. Vraiment un métier où tu es payé, où tu as des charges à payer, voilà, comme un autre métier où c'est encore, elle est encore un peu plus difficile. Mais là, ils ont vu que oui, c'est vraiment mon métier, ma passion, mon médicament, et ils m'ont toujours encouragé. Hein. Mais au début, c'était pas facile parce que j'avais un métier bien payé, propre, c'est bien payé. Hein. J'ai demandé à vos profs, mais c'est bien payé, hein, c'est très bien payé. Hein. Et j'avais une bonne paye, j'étais le papa Noël de tout le monde et tout ça. Et quand j'ai dit que j'ai arrêté pour faire de la poésie, pour faire du slam, pour faire des choses là, je dis, mais pourquoi tu vas arrêter t'es bien payé, là tu as des sous, tu as de l'argent, tu peux avoir une voiture, tu peux avoir tout ce que machin et tout. Mais quand on veut, quand on suit son chemin, quand on a un chemin qu'on veut suivre, il faut le suivre. Il faut essayer en tout cas, il faut essayer de le suivre. Il faut essayer de le suivre même si c'est pas bien payé. Même si c'est dur, mais si c'est le chemin qu'on veut, si c'est le chemin qu'on veut suivre, il faut le suivre. Donc voilà, je vous encourage aussi à suivre votre chemin, à savoir écouter votre chemin et à le suivre. On est là.
Est-ce que vous aimez slammer avec d'autres artistes?
Oui, je slame avec d'autres artistes là. Souvent, ben, dans les soirées slam, il y a Marseille, il y a des sessions slam, justement, des soirées où les gens viennent dire. Donc oui, je slam avec d'autres artistes. J'ai des slameurs, mon slameur préféré, c'est Saul Williams. Donc c'est le papa des slameurs, c'est un peu le plus grand des slameurs, j'aimerais bien travailler avec lui. Donc voilà, voilà, en Bretagne, vous avez Chris Men aussi, qui doit... Bah, lui, il fait du rap, hein, il chante en breton, mais on dit qu'il est aussi dans le texte. Donc j'aime bien Chris Men. Voilà, voilà, on peut essayer de travailler avec d'autres aussi.
Merci, merci de nous avoir écoutés cet après-midi pour nos questions.
Ah ben merci à vous et bon courage, bonne continuation et on est là.
Merci vous aussi, bon courage.
Ouais, merci beaucoup.
On continue.
Oh Letty, on est là, on est ensemble. Là, merci beaucoup. Yes.
Sur le 100.4, le LEM, l'émission du midi, le magazine de Radio Évasion de midi à 13h et en direct.
Et le LEM continue sur Radio Évasion. On rejoindra dans quelques instants Johan en compagnie du groupe Sunvisors. Et les Sunvisors, on va les écouter tout de suite avec le titre Yellow, extrait de leur nouvel album Fire Inside.
I will come to meet you in a foreign country. I learn of you, smile, you learn. We got to see the ocean at the end of the world and never forget, cause you know I will come to meet you in a foreign country. I learn of you, smile, you learn of mine. We got to see the ocean at the end of the world and never forget, cause you know I just wanna have a happy end in yellow. Just foreign country, I learn of you, smile, you learn of mine. We got to see the ocean at the end of the world and never forget, cause you know I will come to meet you in a foreign country. I learn of you, smile, you learn of mine. We got to see the ocean at the end of the world and never forget, cause you know I just wanna have.
Just wanna have a happy end in yellow.
Et on retrouve tout de suite Johan qui était donc en compagnie des Sunvisors vendredi dernier du côté du Novo Max à Quimper. Alors ne vous trompez pas, vous entendrez de temps en temps des petits ce soir, mais non, ce n'est pas ce soir, c'était la semaine dernière qu'ils étaient du côté du Novo Max donc.
Nous sommes avec The Sunvisors qui joue ce soir au Novo Max à Quimper. Alors première question, en forme pour ce soir ?
Ouais,
à fond.
Alors comment se passe votre début de tournée ?
Et bien là, c'est vraiment le début, parce que hier on a joué à l'Econova pour notre sortie d'album. Donc ça s'est super bien passé, c'était complet. On a fait un spectacle d'une heure et quart avec des belles lumières, des vidéos. Donc ça commence super bien. Donc là, on est ravis d'enchaîner direct pour continuer à roder le set. Et il y a beaucoup de dates de prévues, donc pour l'instant, tout va bien.
Alors justement, quelle date appréhendez-vous le plus et pourquoi ?
Alors, je sais pas ce que vous en pensez aussi, ou quelle date
On n'en appréhende aucune, je pense. Enfin, on peut dire ça.
Voilà, il n'y en a pas forcément une qui.
La fête de la coquille, peut-être, à Saint-Guay-Portrier. Mot fait un petit peu peur, mais il paraît que c'est très sympa.
Non, il paraît qu'on boit bien et on mange bien, nous a-t-on dit à Radioactive. Voilà. Oui. Voilà, donc c'est peut-être celle-là qui.
Alors, on sait que vous commencez à avoir une bonne expérience live de par vos nombreux concerts à l'occasion de votre dernière tournée. Alors, quel est votre meilleur souvenir de scène ?
Hier déjà, c'était carrément chambé. Meilleur souvenir, Châteauroux avec les UB40, c'était une belle date.
Ouais, on peut dire ça.
Ouais, je suis d'accord.
On vote ?
On est tous d'accord, je crois. Ouais.
Et le pire ?
Le pire ? On a le droit de dire le pire ? C'est sympa pour les. Le pire. En fait, on a fait plusieurs, on va dire un résumé de concerts. Une fois, on avait fait deux dates à suivre, et sur les deux dates, on a eu quand même quatre coupures de courant.
Justement, je pensais à ça. Ouais. Ça c'était. Voilà.
Alors, par contre, je citerai pas les noms parce que je me rappelle plus, mais c'était. C'était dur là. Parce que tu as beaucoup de routes et t'as pas forcément beaucoup de monde, et en plus, t'as des coupures de courant.
Et surtout une coupure de courant sur un set d'une
heure. Voilà, c'est ça, ouais. La petite frise sur le gâteau.
T'as 10 minutes de coupure de courant, il te reste 20 minutes à jouer. Ok.
Et t'as fait 10 heures de bus pour y aller.
Tout va bien.
C'est ça, complètement.
Alors, comment approchez-vous la composition de vos morceaux ? Y a-t-il un compositeur ou une compositrice parmi vous, ou faites-vous ça en groupe ?
En fait, il y a plusieurs phases. Pour l'écriture, c'est moi qui m'y colle. Pour la musique, c'est nous tous. Voilà.
Et quel a été le morceau le plus complexe à mettre en œuvre sur le dernier album ?
Fire Inside, vu qu'il
n'y
est pas.
C'est clair. On peut le dire.
En fait, notre album, il s'appelle Fire Inside, et on a un morceau de dernière minute qui est arrivé. On a trouvé le titre super de ce qui a donné le nom de le titre de l'album. Et en fait, il n'était pas prêt. Voilà, on l'a fait vraiment au dernier moment. Il aurait fallu qu'il ait un peu plus de temps de mûrir. Et voilà, on se le garde sous le coude. Et puis finalement, on se dit qu'un titre d'album où il n'y a pas forcément un morceau... Qui a ce nom-là, c'est pas si grave, voilà. Mais voilà, y avait des frustrations parce que c'était un morceau qu'on aimait bien. On sentait qu'il y avait quelque chose sur ce titre, mais voilà, et on a préféré de pas le mettre parce qu'on n'était pas prêt.
D'accord. Et pendant ce processus de création, qu'est-ce qui vous prend le plus de temps ?
Le mixage peut-être. Le mixage, c'est une longue phase, surtout qu'on bosse avec. Loïs, qui est quelqu'un qui est vraiment pointilleux et qui, tant que c'est pas prêt, tant que c'est pas finalisé, tant qu'il est pas content et tant que nous on l'est pas non plus, on continue en fait jusqu'à ce que mort s'en suive, on va dire. non mais vraiment c'est intéressant à ce niveau-là parce que comme tu disais Jean-No l'autre jour, il y a beaucoup de studios où c'est un forfait de tant de jours et tu dois mixer. Avec Loïs, du coup, on a vraiment pu aller au bout des trucs et il aime bien chercher, trouver le son. Et c'est une démarche qui nous convient tout à fait.
Il fait des arrangements aussi, c'est-à-dire que c'est pas juste quelqu'un qui va mixer, quoi. Il a besoin d'arranger. Et nous, ça nous aide énormément pour tirer le mieux de chaque morceau, en fait.
Ouais. Il y a vraiment des bonnes.
Il y a vraiment l'étape où on compose ensemble, l'étape où on enregistre. Bon, déjà, ça a dégrossi quand même. On arrive avec des morceaux où nous, on est content, mais où on a tout donné. Ensuite, on lui donne les trucs. Et là, en fait, finalement, c'est comme si on repartait à zéro, quoi. Enfin. Parce que un morceau peut prendre carrément une autre gueule grâce à lui, quoi. Et c'est cool. Et c'est vrai que là, par exemple, tout ce travail de mixage, arrangement, on a étalé ça sur 3 mois quasiment, je crois. Hein. Donc oui, on va dire que c'est l'étape la plus longue, mais la plus excitante aussi, quoi, parce qu'au final, t'es waouh. Enfin, nous, en tout cas, là, on est content, quoi. On est content.
Alors, de qui ou de quel groupe puisez-vous votre inspiration?
Tous. Non, je sais pas. Chacun ramène des albums qui lui plaît. Enfin, on se fait écouter des trucs. On a chacun nos affinités. On discute pas mal. Il y a des groupes qui font un peu l'unanimité. On peut dire forcément aussi très souvent Gorillaz, de plus en plus. On part d'une base reggae, donc on a aussi beaucoup de groupes reggae qui nous parlent. Et puis plus ça va, plus on commence aussi à s'ouvrir à un peu plus que du reggae. Voilà. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de fusionner le reggae avec justement des textures sur lesquelles on n'a pas l'habitude de faire fusion, quoi. Et donc du coup, voilà, c'est un petit peu ça, nos affinités.
Alors justement, y a-t-il eu une évolution dans votre musique depuis votre premier album?
Bah ouais. En fait, sur cet album, le deuxième, parce que le premier album c'est Colors, il est sorti il y a 2 ans. Et là c'est Fire Inside qui vient de sortir et qui sortira nationalement le 28 avril. D'ailleurs il sera disponible 27. Le 27 avril, pardon.
Le jour de l'anniversaire de Arnaud.
De Nino, le guitariste. Donc voilà, petite parenthèse, il sera disponible partout. On va dire que sur cet album, on a développé plus le côté hybride et pop qu'on avait déjà commencé à faire sur le premier album, mais là ce deuxième il est encore plus, ouais, il est encore plus hybride. Donc il y a du reggae, mais quand même moins que sur le premier album.
Non, c'est pas vrai.
vas-y, continue. Ça, je pense que va bien.
Non, t'inquiète. Non, moi je pense qu'il y a autant de reggae que sur le premier album, si ce n'est plus, parce que pour le coup je trouve que dans le reggae on a été encore plus dans le reggae, mais c'est vrai que dans la pop et dans l'autre que le reggae, on a été plus dans autre chose.
Oui. Donc, il y a plus de tout en fait.
Ouais, c'est un peu plus, c'est plus intensément reggae et plus intensément autre chose. Voilà.
Alors, que pensez-vous de la scène reggae française actuelle?
Il y a beaucoup de groupes. Il y a de très belles choses. Il y a des gens qu'on a côtoyés sur la route, avec qui on a eu quelques affinités, enfin même beaucoup d'affinités pour certains. On aime vraiment un peu tout ce qui se fait. Nous, en ce qui nous concerne, on aime aussi faire un truc qui nous corresponde, qui correspond à notre personnalité. Et sinon, qu'est-ce qui nous plaît dans la scène de reggae? On va parler humainement, on adore les Generations, on a vraiment kiffé les rencontrer. Ça, c'est vraiment des mecs qui sont très humbles et super.
Et
le Boubouz
aussi.
Le Boubouz All-Star.
Ah,
ça, on les adore. Ouais. Musicalement, c'est top. C'est vraiment des mecs super et des super zikos. Ouais. Voilà.
Vous considérez de la scène nu reggae, qu'englobe cette étiquette?
Un peu un mélange entre du reggae, de l'électro. Justement, un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure, de mélanger du reggae avec des textures qui sont pas habituellement associées au reggae roots, quoi.
Avez-vous des collaborations rêvées?
Toi. Forcément.
Toi, tu peux le dire, non?
Damon Albarn.
Damon Albarn, le chanteur de Gorillaz, si on peut faire un feat avec lui, ce serait trop classe. Ce serait carrément classe. Ouais. Ouais, ça serait bien. Clinton Ferron serait cool.
Ah ouais, Clinton Ferron, grave.
Ça serait chouette. Sinon, je sais pas, moi.
Johnny, ça va être dur, mais.
Ça va être compliqué, ouais. Non, mais Mélissa Lavo, c'est pas
trop. Bastard aussi.
Ouais.
Ce serait mortel.
Carrément. Bah ouais, il y a des envies.
Alors, comment s'est formé le groupe?
Alors.
C'est vrai que je peux poser cette question.
Il s'est formé un peu par hasard. En fait, les gars avaient pour projet de faire un backing band reggae, donc avec que des reprises reggae. Et ils avaient déjà une petite tournée de prévu. Et en fait, le chanteur les a lâchés un peu au dernier moment, quoi, un mois ou deux peut-être avant la tournée. Et du coup, bah, ils m'ont passé un coup de fil et puis on a marché ensemble sur ce projet-là de reprise reggae. On a fait la tournée, ça s'est super bien passé. On a joué aussi un petit peu par chez nous avec ces reprises-là. Et puis un jour, on s'est dit, bah, pourquoi pas composer quoi, et garder ce projet qui, normalement, ne devait pas forcément durer dans le temps très longtemps. Et du coup, bah, voilà, on en est là 4 ans plus tard, encore ensemble. Voilà quoi.
Eh bien, merci à vous. Bon concert, merci. Bonne fin de tournée et bonne continuation.
Merci.
Salut, bon merci beaucoup.
Sur le 100.4, le LEM, l'émission du midi, le magazine de Radio Évasion de midi à 13h et en direct.
Et avant de se quitter, un petit mot de théâtre. On va parler d'une pièce de théâtre belge à voir samedi, ce samedi 24 mars, du côté du Family à Landerneau. Le titre, déjà une idée de la tonalité. J'habitais une petite maison sans grâce, j'aimais le boudin. Voilà, fermez les guillemets donc. Et c'est Isabelle Lucas, chargée de com' de l'atelier culturel, qui nous en dit plus. Et on remercie Véronique de m'avoir proposé ce sujet. Merci.
On a déjà fait venir donc la compagnie, le collectif Travaux Publics, avec une interprétation magistrale qui était intitulée, dans un titre tout aussi drôle, « Dialogue d'un chien avec son maître sur la nécessité ou pas de mordre ses amis », que nous avons donc accueilli en novembre 2010. Et là, Philippe Genèse, le comédien, donc, revient au Family dans une œuvre autobiographique, puisque c'est un récit autobiographique de Jean-Marie Piem, l'auteur. C'est aussi une très belle chronique sociale. Jean-Marie Piem, en fait, revient sur son enfance jusqu'à sa vie de jeune adulte. Une enfance qui peut être rude, mais qui était aussi drôle et chaleureuse, qui évoque aussi l'univers ouvrier des usines de sidérurgie, le chômage de son père et autres. Tout se passe dans une cuisine, au milieu des odeurs de nourriture, et donc se joue ainsi le quotidien d'une famille relativement modeste, mais pour laquelle les vendredis étaient un jour de joie, un jour heureux, puisque c'était le jour de paye. Et c'est une fresque humaine, tendre et drôle. Et encore une compagnie belge, puisqu'on aime beaucoup le théâtre belge à l'atelier culturel. On trouve que leur travail est percutant, il est sans artifice.
L'émission du midi, tous les jours en direct, est rediffusée à 18h. L'émission du midi, avec de vrais morceaux de Finistère dedans.
Voilà le LEM pour ce vendredi, c'est terminé, on vous donne rendez-vous lundi. Véronique recevra plein d'invités dans le LEM, on parlera de musique, on parlera de théâtre aussi, encore une fois. Mais tout ça du côté de la presqu'île de Crozon, et on parlera donc de chorale avec Kaléidoscope. Et nous recevons aussi Maxime Piolo, et on parlera donc de théâtre avec Lionel Malik, qui sera aussi présent dans les studios. Voilà pour ce vendredi, on vous souhaite un très bon week-end et une très bonne journée, donc à l'écoute de Radio Évasion.
Sur le 100.4, le LEM, l'émission du midi, le magazine de Radio Évasion de midi à 13h et en direct.